Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors tout le monde sait mon intérêt, mon amour, ma passion même pour les instruments rares ou moins connus. Il n'y a pas que le piano, le violon, la flûte, la clarinette ou le violoncelle dans la vie. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de vous concocter deux émissions consacrées aux concertos pour instruments rares. Et je commence peut-être par le plus inattendu, enfin du moins dans le champ de la musique classique, puisque nous allons maintenant écouter un extrait du concerto pour harmonica et orchestre d'Hector Villa-Lobos. Bon, d'abord, moi j'adore Villa-Lobos, immense compositeur brésilien, né à Rio de Janeiro, qui a écrit plus de 1000 œuvres et qui est une sorte de synthèse extrêmement vivante et vivifiante entre musique populaire brésilienne et musique savante occidentale. Vous savez qu'au Brésil, Villa-Lobos est un véritable monument, qu'il n'y a sans doute pas un Brésilien qui ne connaisse le nom de Villa-Lobos, même si malheureusement ils ne connaissent pas forcément sa musique. Alors nous allons donc écouter maintenant son concerto pour harmonica et orchestre, un concerto que Villa-Lobos écrit en 1956, et vous allez voir que le soliste Tommy Rey nous prouve bien que l'harmonica peut être aussi lyrique, aussi expressif que le violon.
Thank you.
Nous écoutions le second mouvement du concerto pour harmonica et orchestre d'Hector Villa-Lobos. C'était Tommy Rely à l'harmonica et l'orchestre de la Radio du Sud-Ouest était placé sous la direction d'Emrich Smola. Alors il existe un autre grand compositeur du XXe siècle qui a écrit un concerto pour harmonica et orchestre, je pense à Darius Milhaud, compositeur français né à Marseille. Et il y a un autre lien avec Villa-Lobos, c'est que Darius Milhaud a toujours dit que c'était au Brésil qu'il avait trouvé définitivement son langage et son style. En effet, en 1916, il a accompagné au Brésil Paul Claudel, dont il était le secrétaire, lorsque ce dernier a été nommé ambassadeur de France à Rio de Janeiro. Il était donc tout naturel que Darius Milhaud succéda à Hector Villa-Lobos dans notre émission. Mais alors je vous propose de ne pas revenir à l'harmonica, mais d'aller vers un autre concerto d'instruments rares. Je pense au concerto pour marimba, vibraphone et orchestre que Darius Milhaud a composé quelques années plus tôt, en 1947 très exactement. Alors attention, lorsque j'ai dit concerto pour marimba, vibraphone et orchestre, il ne s'agit pas du tout d'un double concerto. C'est le même instrumentiste qui, selon les mouvements, passe d'un instrument à l'autre. Dans le troisième mouvement, c'est à peu près équilibré entre les solos de marimba et les solos de vibraphone. Dans le second mouvement, on entend presque exclusivement le vibraphone. Et quant au premier mouvement que nous allons entendre maintenant, il est entièrement dédié au marimba. Je vous rappelle que le vibraphone est composé de lames de métal, c'est ce qu'on appelle un métallophone, tandis que le marimba, c'est comme le xylophone, c'est composé de lames de bois et vous allez tout de suite l'entendre passer le premier outil d'orchestre. Dès qu'on entend le son du marimba, on se trouve en quelque sorte par l'imagination transporté quelque part entre l'Afrique et le Brésil.
Thank you.
Nous écoutions le premier mouvement de l'étonnant concerto pour marimba et orchestre de Darius Milhaud, interprété par Peter Sadlo au marimba et l'Orchestre Philharmonique de Munich sous la direction de Sergiu Celibidac. Alors je vous rappelle que c'est une œuvre qui date de 1947 et figurez-vous que dans les mêmes années qu'on pourrait appeler les années de guerre, en 1943 très exactement, le compositeur russe Reinhold Glier a composé un concerto pour coloratour et orchestre. Coloratour, vous avez bien entendu, c'est-à-dire la voix de soprano coloratour, mais oui, pourquoi pas considérer la voix humaine comme une sorte d'instrument de musique. Alors bien sûr, il faut qu'il n'y ait aucune parole, il n'y a que des vocalises d'un bout à l'autre, et quelle vocalise, puisque comme c'est le cas de toute coloratour, eh bien, il y a une débauche de virtuosité, d'ornementation, de vocalise et de tri, hein. C'est un peu le propre de la voix de soprano coloratour. Vous n'avez qu'à, par exemple, penser au grand air de la Reine de la Nuit dans la Flûte enchantée de Mozart. Donc, je vous propose d'écouter maintenant le second mouvement du concerto pour coloratour et orchestre, et la coloratour, c'est la grande Joan Sutherland.
Thank you.
magnifique musique, j'ai failli me mettre à applaudir, mais enfin je ne sais pas si Maxime Ingrand, qui s'occupe du son dans le studio, serait très content que je me mette à applaudir devant le micro. Donc j'applaudis, comment dire, intérieurement à cet étonnant second mouvement du concerto pour soprano, coloratura et orchestre du compositeur russe Reinhold Glier, et c'était interprété par la grande soprano Joan Sutherland, et le chef d'orchestre Richard Boninch, qui est également son mari, dirigeait le London Symphony Orchestra. Alors avec ce concerto pour coloratura et orchestre, je pense que nous avons franchi un cap dans cette émission qui, je vous le rappelle, est consacrée au concerto pour instruments rares et orchestre. Et tout à ma joie, je vous propose maintenant de rejoindre l'indémodable, l'inénarrable Albrecht Berger et ses concertos pour guimbarde et orchestre. On en avait déjà passé un extrait dans une émission précédente, mais vraiment, je ne m'en lasse pas. Je vous rappelle d'ailleurs qu'Albrecht Berger était un monsieur tout à fait sérieux, organiste, compositeur de messes et de tout un tas d'œuvres religieuses, grand ami de Haydn et Mozart, mais aussi compositeur de 3 concertos pour guimbarde qui font aujourd'hui tout autant pour sa réputation. C'était le final du concerto en fa majeur pour guimbarde et orchestre de Johann Georg Albrecht Berger, une œuvre de 1771, interprétée par le guimbardiste allemand Fritz Mayer, accompagné par l'orchestre de chambre de Munich, dirigé par Hans Stadelmayr. Alors après la guimbarde, je dois bien vous avouer que je n'ai rien trouvé de plus extravagant comme instrument concertant. Et c'est pourquoi je vous propose d'en venir maintenant à l'alto, qui n'est pas un instrument rare, mais pour lequel peu de compositeurs ont écrit des concertos. Alors, le plus connu des concertos pour alto et orchestre, c'est indéniablement celui de Bartók, le compositeur hongrois. Enfin, à ce moment-là, il n'est pas en Hongrie, il est aux États-Unis, on est à la toute fin de sa vie. Il a fui l'occupation nazie de la Hongrie en 1940, et en 1945, il se met à l'écriture d'un concerto pour alto que, malheureusement, la mort va laisser inachevé. Il a été terminé, heureusement, par son ami Tibor Serli. Et alors là, on est un petit peu comme dans le cas du Requiem de Mozart, qui a été terminé par son élève Soussmayer. On ne saura jamais exactement ce qui est de la main du compositeur et ce que l'on doit à la personne ayant achevé l'œuvre. Mais enfin, le concerto pour alto et orchestre de Bartók est maintenant une œuvre de répertoire. C'est une œuvre magnifique. Je vous propose d'en écouter le troisième mouvement à la belle énergie rythmique, interprété en soliste par Kim Kashkashian et par l'orchestre de chambre de la radio des Pays-Bas sous la direction de Peter Rudvoss. C'était le final du concerto pour alto et orchestre de Béla Bartók, interprété à l'alto par Kim Kashkashian. L'orchestre de chambre de la radio des Pays-Bas étant placé sous la direction de Peter Edvos. Alors après l'énergie roborative de ce véritable mouvement perpétuel pour alto et orchestre, je vous propose maintenant un petit pas de côté, une petite pause dans l'émission si vous voulez bien, avec un enregistrement étonnant de 1937. Un mouvement de concerto, certes, mais revu et corrigé à la mode swing, à la mode jazz, puisque nous allons maintenant entendre une improvisation swing sur le premier mouvement du concerto en ré mineur pour deux violons de Bach, par les violonistes Stéphane Grappelli et Eddie Saos, accompagnés non pas par un orchestre, mais par une guitare, mais alors pas n'importe quelle guitare, puisqu'il s'agit, s'il vous plaît, de la guitare de Monsieur Django Reinhardt. Django Reinhardt à la guitare, Eddie Saos et Stéphane Grappelli au violon nous donnaient leur version toute personnelle du premier mouvement du concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, le double concerto de Jean-Sébastien Bach. Alors maintenant, puisqu'on en est à écouter du violon mais joué de manière pas classique, pas traditionnelle entre guillemets, voici une œuvre encore plus étonnante de ce point de vue-là, une œuvre due à la plume d'Antonio Vivaldi. Il s'agit en effet du concerto pour plusieurs instruments et orchestres, numéroté 558 pour les amateurs, et ce concerto réunit plusieurs couples d'instruments dont deux violons en trompette marine. Alors qu'est-ce qu'on appelait à l'époque des violons en trompette marine? Eh bien je ne sais pas si vous avez déjà vu dans votre vie une trompette marine, c'est un grand monocorde, une corde unique que l'on faisait sonner un peu comme une trompette puisque ça faisait les notes de l'arpège. Ça s'appelle marine mais ça n'a rien à voir avec la marine, c'est un faux ami, c'est parce que c'était un instrument qu'on jouait dans les couvents qui était dédié à la Vierge, donc on devrait plutôt appeler ça trompette mariale. Et alors ces instruments étaient très peu commodes parce qu'ils étaient très longs, et à un moment donné on a eu l'idée de reproduire la sonorité de la trompette marine sur un violon, grâce à un petit chevalet mobile, comme dans les vielles à roues. On appelle ça le chien dans les vielles à roues, qui fait un peu zinguer la corde. Vous voyez, d'ailleurs, cette corde dans une vielle à roues s'appelle la trompette. Et Vivaldi, qui adorait les couleurs instrumentales, qui n'a pas hésité toute sa vie à utiliser des instruments nouveaux ou des instruments rares, voire obsolètes, s'est jeté sur cette invention et il a composé un concerto qui s'appelle « Concerto pour plusieurs instruments ». con molti strumenti, parce qu'il réunit plusieurs couples d'instruments. D'ailleurs, vous en rendrez bien compte, au centre du mouvement qu'on va entendre maintenant, au bout d'à peu près 2 minutes, on entend des petits solos du couple de chalumeaux, hein, c'est l'ancêtre de la clarinette, du couple de flûte à bec, du couple de théorbe, qui est un grand luth, du couple de mandoline, et donc du couple de nos deux violons en trompette marine. Donc je vous propose d'écouter maintenant le premier mouvement du concerto pour plusieurs instruments et orchestres numéro 558 d'Antonio Vivaldi par Europa Galante sous la direction de Fabio Biondi. Thank you. C'était le premier mouvement du concerto pour plusieurs instruments et orchestres de Vivaldi. Celui qui porte le numéro 558, hein, c'est un numéro de catalogue, RV 558. Mais je vous le donne parce que comme ça, si vous avez envie de l'écouter sur Internet, bah vous faites Vivaldi concerto 558 et vous tomberez immédiatement dessus. Donc concerto pour une quinzaine d'instruments, puisqu'en plus des cordes accompagnantes, nous venons d'entendre deux chalumeaux, deux flûtes à bec, deux théorbes, deux mandolines et donc ces deux fameux violons en trompette marine. Alors je suis vraiment très heureux qu'on ait écouté un extrait de ce concerto, non seulement à cause de son instrumentation bien particulière, mais également parce que j'ai l'impression que quand on dit le mot concerto, on pense toujours à un soliste et à un grand orchestre en oubliant que le concerto était au départ conçu pour le salon ou la salle d'apparat, c'est-à-dire pour 10 à 15 personnes, pas plus. Alors là, nous avions à peu près une quinzaine de personnes pour ce mouvement de concerto de Vivaldi. Je vous propose de réduire notre groupe à 10 personnes seulement, la flûte, le basson, 6 cordes, le clavecin et le piano. Quelle drôle de réunion instrumentale! Mais oui, il s'agit d'un merveilleux concerto de Bohuslav Martinů. Alors Bohuslav Martinů, c'est le plus récent des quatre grands compositeurs tchèques, après Smetana, Dvorak et Janáček. C'est un compositeur né en 1890, mort en 1959. C'est à mon avis un des géants du XXe siècle, pour moi un aussi grand compositeur que Stravinsky ou Poulenc. Et il a écrit une musique d'une incroyable vie rythmique, avec des couleurs harmoniques et instrumentales singulières, savoureuses. C'est un compositeur de plus qui a écrit plus d'une trentaine de concertos. Alors là, il est vraiment pile dans le thème de l'émission. Et alors, ce qui est intéressant, c'est cette combinaison instrumentale, parce qu'il y a le clavecin en soliste, mais dans le groupe instrumental qui accompagne le clavecin, il y a un piano intégré à l'orchestre qui fait en quelque sorte l'ombre, l'écho du clavecin. Enfin, vous allez pouvoir le constater maintenant, il y a dans la musique de ce concerto pour clavecin de Martinů un même sens des couleurs, une même joie rythmique que dans l'œuvre de Vivaldi que nous venons d'écouter, mais, comment dire, à cause des dissonances, avec quelque chose de plus acidulé, comme un petit filet de citron. Thank you. Nous savourions les couleurs acidulées, la vie rythmique du troisième mouvement du concerto pour clavecin et petit orchestre du compositeur tchèque Bohuslav Martinů, une œuvre écrite en 1935, interprétée par la claveciniste Susanna Ruzicová et les musiciens de l'orchestre philharmonique tchèque sous la direction de Václav Neumann. Et maintenant, pour terminer l'émission, je vous propose une délicieuse petite friandise. Un concerto de Mozart pour piano et orchestre, sans piano ni orchestre. En effet, en 1991, les célèbres Swingle Singers ont imaginé transcrire le mouvement lent du 21e concerto de Mozart exclusivement pour leur formation vocale. Alors la main droite du piano devient avec les Swingle Singers une suave soprano, et je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, nous sommes quelque part sur les nuages du paradis.
Thank you.
nous laissions bercer, câliner, envelopper par les voix des Swingle Singers, une merveilleuse transcription datant de 1991 du célèbre second mouvement du concerto pour piano numéro 21 de Mozart. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec David Delpech et Dorian Seigre. Chef opérateur du son, Maxime Ingrand. À la semaine prochaine.